La revanche du passé, deuxième partie. Chapitre 1. Madame Georges reposa sur la table le billet qu'elle venait de lire, et elle soupira. À la porte, un coup de sonnette venait de retentir, et déjà dans le vestibule, on entendait des pas. C'était la visite, devenue quotidienne, de la locataire d'en haut venant s'informer d'Élisabeth. Elle traînait derrière elle, comme toujours, un marmot joufflu de 5 à 6 ans, et tout de suite, en jetant un coup d'œil dans la chambre, dont un pêle-mêle inusité d'objets, un encombrement de fuites changeait l'aspect élégant, elle s'écria « Ah, voilà que vous déménagez à présent !»«
Je serai trop seule ici, sans Élisabeth, »
dit Madame Georges simplement. Et elle ajouta pensive « Oui, j'irai demeurer dans le voisinage de ma fille. » La femme fixa un moment sur elle son regard de blonde pâle, fatiguée, puis elle dit « C'est singulier comme vous vous cachez du monde. On ne sait jamais ce que vous avez dans l'esprit. » Et elle s'assit. Le petit garçon se mit à courir autour de la chambre, joyeux, fureteur, touchant à tout. Madame Georges s'assit aussi, les mains sur ses genoux. Tous les jours, cette femme, qu'elle avait eu la maladresse d'introduire chez elle en sollicitant sa complaisance, venait empoisonner sa solitude de questions hardies, pleines de sous-entendus transparents. Dès qu'elle avait eu connaissance du mariage d'Élisabeth, elle était accourue, très offensée, se plaindre de l'ignorance où on l'avait laissée, elle qui n'avait pas passé un jour sans témoigner à la jeune fille un intérêt bienveillant. Aigrement, elle avait observé qu'on savait bien se souvenir de son existence lorsqu'il s'agissait de quémander ses services, mais qu'ensuite, on la traitait en étrangère, allant jusqu'à la frustrer d'une cérémonie publique, où même les passants de la rue ont le droit d'assister. Elle avait insinué qu'une façon d'agir si extraordinaire donnait à réfléchir aux gens les mieux intentionnés. Madame Georges avait allégué son deuil encore profond, et cette excuse avait paru suffire. Mais depuis ce jour, quelque chose de la vérité flottait comme une impalpable poussière dans l'air, et Madame Georges, par prudence, s'était résignée à subir les quotidiennes invasions de cette femme. Les conduire dans ce moment équivaudrait à un aveu, et elle était sûre qu'Élisabeth, avec son silencieux mépris, regarderait cet acte comme une lâcheté. Et ce jour-là, comme à l'ordinaire, elle s'efforça pendant près d'une heure d'éluder la curiosité mal apprise qui la harcelait, rôdant autour de son secret presque ouvertement. Esquivant les questions directes, elle détournait l'entretien avec cette adresse souple qu'Élisabeth haïssait, sans quitter des yeux le petit garçon qui s'ébattait dans la chambre. Tout à coup, voyant l'enfant s'approcher de la table où la lettre était restée ouverte et menacer le papier de ses petits doigts noirs, elle se leva. « Oh !» dit la mère, « soyez sans crainte, le petit sait se conduire, il ne touche jamais à rien. » Sans répondre, Madame Georges alla jusqu'à la table, mit tranquillement à l'abri des menottes inquiétantes quelques objets délicats, puis, comme par hasard, elle prit la lettre et la glissa dans sa poche. « Ce n'était pas la peine d'avoir peur, » dit sèchement la visiteuse en se levant. « Est-ce que ça sait lire, des mioches comme ça ?»«
C'est une lettre d'Élisabeth, » dit Madame Georges froidement.
Et elle essaya de masquer d'un sourire la brusque souffrance qu'éveillait l'impertinente observation. « Ah ! Vous avez donc enfin des nouvelles ? Il était temps !» Évitant de rencontrer le regard hardi et soupçonneux, Madame Georges répondit évasivement à l'avalanche de questions indiscrètes que déchaîna la nouvelle. Elle pensait, soulagée, que ce supplice-là au moins, cette obsession bourdonnant autour de son mal comme une mouche infatigable et vulgaire, prendrait fin prochainement. Elle s'en irait de cette demeure où elle avait tant souffert, sans laisser de traces de son passage. Elle se mettrait à l'abri de cette inquisition grossière et bête. L'enfant, fatigué de ses perquisitions,
était revenue auprès de sa mère, et depuis un moment, les 10 petits doigts cramponnés aux plis de la jupe, il la sollicitait. « Allons-nous-en ! Allons-nous-en !» La visiteuse se dirigea vers la porte, et tout à coup, comme si une bouffée de bonté eût effleuré son âme banale et vide, elle dit « C'est égal, on vous regrettera dans la maison, car enfin, on n'est pas tenu de tout dire à tout le monde. » « Merci, » dit Madame Georges, en essayant de nouveau de sourire. « Moi aussi, certainement, je... Merci. » Elle resta seule, avec la certitude aiguë d'avoir été pour ces étrangers, qui vivaient sous le même toit qu'elle, une perpétuelle source d'observation et de commérage. Par où? Comment? Depuis quand? Ce qu'elle croyait avoir gardé si soigneusement caché avait-il filtré au dehors? L'atmosphère lourde de son chagrin était-elle donc imprégnée d'un poison de honte si subtil qu'il pénétrait à son insu partout? Elle resta un moment la tête cachée dans les mains, et une fois de plus, depuis le mariage d'Élisabeth, triste cérémonie célébrée à huis clos, où pas une fois sa fille n'avait tourné les yeux de son côté, elle s'interrogea. « Ai-je bien fait de souscrire à ce hideux marché? Était-ce bien ce qu'il fallait faire? N'ai-je pas cédé trop vite à une crainte lâche de souffrir ?» Elle reprit dans sa poche la lettre d'Élisabeth, et pour la centième fois, elle la relut. Elle la relut attentivement, espérant, à force de solliciter les mots, en extraire pour l'avenir une lueur consolante, et pour le présent, le courage de supporter son abandon, sa noire et amère solitude. Mais dans le billet laconique d'Élisabeth, il n'y avait rien de ce qu'elle cherchait. C'était une ligne hâtive, annonçant le retour des jeunes gens pour la fin de la semaine, l'annonce sèche d'un fait, sans un seul de ces mots délicats où l'amour maternel dépouillé trouve un apaisement. C'était un avis pur et simple, sans commentaire aucun. Elle ne pouvait pas même, par ce banal document, se faire une idée de l'état d'esprit d'Élisabeth. Elle ne savait pas même si son enfant avait trouvé, dans le triomphe de sa volonté, l'éphémère bonheur qu'elle pouvait en récolter. Découragée, elle jeta la lettre sur la table. Il n'y avait rien pour elle dans ce message conventionnel, vide de pensées et de sentiments. Cédant à une bouffée d'indignation, elle le poussa loin d'elle et releva la tête. Aussitôt, son visage à la peau froissée et flasque alla se refléter dans la grande glace léguée par sa mère, où toutes les joies pures de sa jeunesse avaient passé sans laisser de traces. Et elle aperçut tout à coup, sur le poli du verre, ce spectre inconnu. Elle s'approcha lentement et considéra de tout près le masque vieilli aux innombrables plissures, tandis que devant elle, des choses mortes se soulevaient lentement, s'animaient, se mouvaient confusément, très loin. Et brusquement, à travers les années disparues, elle vit à côté de son image flétrie surgir l'autre, le visage frais et jeune d'autrefois. Il lui sembla que tout le passé ressuscitait, peuplait soudain sa morne solitude de fantômes légers et joyeux. L'impression violente des joies pleines de ce temps-là la pénétra jusqu'au moelle. Elle serra l'une contre l'autre ses mains sèches, nerveuses, et un sanglot l'étrangla. « Oh, mon Dieu, est-ce que vraiment je mérite de souffrir ainsi ?» Au milieu du désastre de sa vie, tout ce qui subsistait en dehors de son expérience immédiate, tout ce qui n'était pas en connexion directe avec le drame de sa jeunesse et ne touchait pas au sort de l'enfant jeté par elle à une destinée incomplète, avait depuis longtemps cessé d'occuper son esprit. Au début de son malheur, lorsque la trahison qui la livrait au déshonneur était devenue une certitude, qu'elle avait senti l'horrible désespoir de l'abandon lui labourer le cœur, elle s'était tournée, ardente, vers quelque secours miraculeux qui pût créer une issue à l'impasse désolée où elle s'était jetée. Mais, ayant trouvé le ciel inattentif à son appel, elle s'était éloignée de la piété, avec la vive rancœur que suscite au fond de l'âme désespérée une attente déçue. Sa foi, concentrée sur l'accomplissement immédiat d'un fait unique, avait tout de suite sombré devant le silence absolu d'une divinité sourde, indifférente ou impitoyable. Et elle n'avait plus jamais cherché dans la religion un abri contre la souffrance continue attachée à sa passion maternelle. La joie amère de posséder Élisabeth avait ensuite banni toute idée de repentir. Elle avait vécu absorbée tout entière dans ce sentiment qui la rattachait à la vie. Il était devenu le centre fixe où allaient aboutir toutes ses pensées, la raison d'être de sa propre existence et le point de départ de chacune de ses actions. Elle avait souffert, passive et muette, tout ce qu'il était possible de souffrir dans sa fierté et dans son cœur. Et peu à peu, elle s'était laissée glisser doucement à l'obscure conviction que cette acceptation silencieuse des faits, cette résignation complète à un sort d'exception, devait suffire à effacer sa responsabilité. Depuis qu'Élisabeth était née et avait rempli jusqu'au bord sa vie désemparée, elle n'avait jamais pu, non, pas un seul instant, faire abstraction de sa présence, se figurer une vie de pénitence possible sans le constant secours qui lui venait de sa tendresse pour son enfant. Sans Élisabeth, la grandeur du monde désert lui eût glacé le cœur d'effroi. Elle eût erré affolée dans de mornes solitudes, stériles et desséchées, où pas une source rafraîchissante ne serpentait à travers les pierres. Peu à peu, l'intense désir de bonheur qui renaît comme une plante vivace aux crevasses de toutes les ruines avait pris racine sur les débris de son passé et en avait caché les détériorations. L'idée poignante de sa déchéance s'était adoucie. Sa faute, en quelque sorte légitimée, au fond de sa conscience par l'indispensable présence d'Élisabeth, s'était réfugiée dans une place forte où aucun remords ne l'inquiétait plus. Longtemps, longtemps, elle resta abîmée dans ses pensées, cherchant à éclairer le dédale obscur où, dans un chaos contradictoire, les impressions saines et vivaces de sa jeunesse se mêlaient tout à coup à la torturante obsession du présent. Elle alla enfin regarder dehors. En face des fenêtres, un mur blanchi à la chaux arrêtait la vue à 10 mètres. Mais au-dessus de ce mur, on apercevait, entre l'angle des toitures, un bout de ciel bleu. Elle fixa un moment cette échappée lumineuse, puis ses lèvres s'entr'ouvrirent. « mon Dieu, est-ce que c'est possible ?» Et elle ajouta sourdement, « Élisabeth, mon enfant, ma petite fille, oui, il aurait mieux valu qu'elle ne vînt jamais au monde. » Chapitre 2. André prit sur la nappe une branche de seringa qu'il avait posée à côté de son couvert, et il se leva de table. Le grand jour donnait en plein sur son fin visage créole, légèrement bronzé. Il appuya les deux mains au dossier de sa chaise et regarda un moment sa femme d'un air préoccupé. Enfin, il sourit, laissant voir sous la moustache très noire une rangée de dents irréprochables, et il dit « Est-ce que tu n'iras pas voir ta mère aujourd'hui, Élisabeth ? Il me semble que tu l'oublies. » Élisabeth se leva à son tour. Elle vint appuyer sa joue à l'épaule de son mari et elle répondit « Si tu viens avec moi, j'irai. » Il y avait plus de 15 jours que les jeunes gens étaient de retour. Et pendant ce laps de temps, l'arrangement d'une nouvelle demeure, l'installation de son petit ménage, la nouveauté de tous les détails de l'existence, avait retenu André à la maison, à la fois affairé et badin. Élisabeth n'avait jamais voulu sortir sans lui. Et depuis la rapide entrevue au saut du train, à la grande gare pleine de monde, le jour de l'arrivée, elle n'avait pas revu sa mère. Elle alla mettre son chapeau, son manteau, ses gants, puis, toute prête, elle vint prendre le bras d'André et réitéra sa prière, câline. « Viens avec moi. »« Non, » dit-il un peu bref, « pas aujourd'hui. » Et il se dégagea doucement. Il trouvait Élisabeth très exigeante. Tous les jours, elle devenait plus avide de démonstrations et d'assurances. Cette sensiblerie lui donnait des bouffées d'impatience presque impossibles à réprimer. Cependant, pour corriger l'effet de son refus un peu trop brusque, il la prit par les épaules, la considéra de la tête aux pieds, la toisa longtemps sans rien dire dans sa toilette neuve d'étoffe claire. Enfin, il s'écria d'un air distrait « À la bonne heure, plus de noir !» Élisabeth resta immobile, indécise, un pli au front. Elle ne trouvait pas d'expression juste pour traduire sa pensée. Sa pensée. Ce n'était pas même une pensée, c'était une de ces fugitives impressions qui effleurent l'esprit, si légères qu'elles n'ont pas dans le langage de forme correspondante. En l'arrêtant dans des mots, elle lui donnait une consistance qu'elle n'avait pas. Elle dit simplement « J'aurais beaucoup voulu que tu vinsses avec moi ». Et elle marcha vers la porte lentement. Arrivée sur le seuil, sans qu'André eût prononcé une parole, elle se retourna. « Et toi ? » dit-elle d'une voix un peu lasse. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»«
Moi ?»
Il réfléchit quelques secondes et reprit. « J'ai une quantité de choses à faire, qu'il est inutile de détailler. » Cependant, après un nouveau silence, il ajouta.
« Pourquoi ne pas te le dire, après tout?
Nous avons beaucoup dépensé en voyage. Je veux voir où nous en sommes. » Élisabeth rentra vivement. « Je savais bien que tu dépensais trop, beaucoup trop. » Et comme cela lui était arrivé souvent pendant le court voyage de noces où André avait jeté l'argent à pleine main, choisissant partout les plaisirs les plus coûteux, les meilleures places, la comblant de cadeaux inutiles, vivant, en un mot, avec un luxe insouciant qui n'a pas besoin de compter, elle rougit de sa pauvreté, de son absolu dénuement. André se mit à rire, montrant toutes ses dents, tout son râtelier jeune et complet. Il rit longtemps, de tout son cœur, sans reprendre haleine. Enfin, comme Élisabeth s'était rapprochée de lui et qu'il voyait toujours, entre les fins sourcils noirs, un pli fixe, que son accès de gaieté n'avait pas fait disparaître, il releva jusqu'à la naissance des cheveux la voilette blanche et effleura de ses lèvres le front soucieux. « Tu es vraiment folle, Élisabeth. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire qu'après notre jolie escapade, je veuille mettre de l'ordre dans nos affaires? Pourquoi prendre, pour une chose tout à fait naturelle, cet air tragique? Rassure-toi, il n'y a point de mal. » Il y eut un silence. Tu dois comprendre, dit enfin Élisabeth, que je ne puis pas supporter l'idée que tu fais des extravagances pour me faire plaisir à moi. Après ce que je t'ai demandé autrefois, c'est assez naturel pour que je n'aie pas besoin de te l'expliquer, n'est-ce pas? André aspira un moment, de tout près, la fleur de seringa qu'il tenait entre le pouce et l'index. Et avec un commencement d'impatience dans la voix, il répéta. « Je te dis qu'il n'y a point de mal. Laisse-moi faire, et va donc voir ta mère. Cela lui fera plaisir, et cela te distraira. » Le visage d'Élisabeth s'assombrit davantage, se contracta presque. Comment André, au fait du passé, pouvait-il mentionner une visite à sa mère comme une distraction opportune à lui offrir? Il ne pensait pas à ce qu'il disait, et cette inattention la blessait. du bout de la branche de seringa qu'il balançait dans sa main, André se mit à caresser la joue pâlotte. Il avait compris à temps qu'en oubliant la susceptibilité d'Élisabeth au sujet de ses rapports avec sa mère, il avait fait fausse route. Il reprit amical.
« Voyons, va pour me faire plaisir à moi. Il ne faut pas abandonner ta mère. Elle m'accuserait de te retenir. D'ailleurs, il n'y a aucune raison pour cesser toute relation avec elle. Ce serait une simple cruauté, je t'assure. »
Élisabeth comprit l'inutilité de continuer une lutte où l'emploi de ses meilleures armes lui était défendu. Elle ne pouvait pas dire à André le soupçon que sa mère avait fait planer sur lui. Il ignorerait toujours l'imputation imaginée pour combattre son ardente aspiration, à elle, d'occuper dans la société une place légitime à côté de l'homme qu'elle aimait. André ne pouvait donc pas comprendre l'effort qu'il exigeait d'elle. Elle s'en alla lentement au milieu du va-et-vient des rues, poursuivie par une impression très vive et désagréable. Les paroles dites avec tant d'indifférence par André, au moment même où il refusait de l'accompagner, revenaient frapper ses oreilles comme un refrain persistant. « À la bonne heure, plus de noir !» Elle avait senti un souffle glacé lui passer sur la figure à ce moment-là, et elle en gardait encore sur la peau une sensation de froid. Distraite, elle marcha droit devant elle, le long des rues connues, au gré de son instinct. C'était la première fois depuis son mariage qu'elle était ainsi livrée à elle-même, et elle souffrait de son isolement, comme si, séparée d'André, elle retrouvait tous les anciens plis soucieux de son esprit. Tout à coup, elle s'arrêta et regarda autour d'elle. Un parfum de fleurs chauffées au grand soleil d'été, une odeur forte qu'elle détestait, l'attirait de sa rêverie. Au-dessus du mur, faisant face à leur ancienne demeure, elle vit la tête droite et blanche du seringa en pleine floraison. Elle murmura « Suis-je assez folle? Mais qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais ?» Et elle regarda un moment les deux fenêtres sans rideaux qui semblaient fixer sur elle des yeux morts. Sa préoccupation intérieure lui avait fait oublier qu'après son départ, sa mère avait changé de demeure. Pourquoi ce changement? Elle l'ignorait. Le fait lui avait été communiqué pendant son voyage, sans explication. Elle rebroussa chemin, et voyant passer dans la vitrine des grands magasins sa silhouette claire qui fuyait, elle sentit la remarque distraite d'André la blesser une troisième fois à la même place. « À la bonne heure, plus de noir !» Se regarder marcher sous ce costume voyant, trop clair pour son teint maladif, cela lui donnait un malaise inconnu. Sous cet attirail frais, rose et blanc, elle ne se reconnaissait presque pas, et elle allait très vite, fouettée d'impatience, de plus en plus pressée d'en avoir fini avec cette excursion solitaire. Ce fut Gertrude qui répondit au coup de sonnette nerveux et sec, qui résonna très fort dans le silence. Sans rien dire, la servante s'effaça, se colla au mur pour laisser passer la jeune femme. Tout de suite, Élisabeth reconnut la piqûre de cette hostilité de bas étage. L'ancienne malveillance silencieuse marchait derrière elle, suivait dans les trois corridors obscurs le sillon de sa fraîche toilette neuve. Elle regretta d'avoir mis cette robe tapageuse, qui, en face du deuil toujours profond de sa mère, avait presque l'air d'une provocation. Une porte s'ouvrit, Madame Georges s'élança. « Élisabeth, est-ce toi? Oh, est-ce toi ?» Et deux bras fiévreux l'enlacèrent, l'étreignirent. La jeune femme se laissa prendre sans résistance, mais elle demeura absolument inerte sur le cœur bondissant de sa mère. À la fin, elle se dégagea doucement et dit « Oui, c'est moi. »«
Tu es bonne d'être venue, » murmura Madame Georges. « Je t'ai attendue tous les jours. »
Elle ajouta sourdement « Je croyais que tu ne viendrais plus. » et entraînant sa fille dans une chambre écartée, à l'abri de l'attention hostile de Gertrude, elle la prit par les épaules, comme André l'avait fait tout à l'heure, et la considéra longuement sans parler. « Comme tu as l'air bien !» dit-elle enfin. Elle ajouta après un court silence, « Je ne t'ai jamais vu avoir l'air si bien. Dans cette robe claire, vraiment, tu... » Élisabeth l'interrompit vivement. « C'est la première fois que je la mets. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mise. » Elle reprit avec une vivacité singulière qui avait presque l'air de s'excuser. « Il faisait très chaud ce matin, et alors j'ai pensé... Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai mise. » Et une fois de plus, l'expression distraite et froide d'André lui serra le cœur. « Assieds-toi là, » dit Madame Georges en poussant un fauteuil vers la fenêtre. Elle-même s'assit sur une chaise en face de la jeune femme, en pleine lumière. Alors seulement Élisabeth vit les hachures menues qui sillonnaient la peau, aux tempes, sous les yeux, autour de la bouche. Elle demanda « Est-ce que tu as été malade ?»« Non, » répondit la mère faiblement. Elle ajouta aussitôt « J'ai souffert. » En même temps, elle recula sa chaise de façon à ce que l'ombre cachât les dégâts de son visage. Élisabeth resta un moment silencieuse. Une pitié avait passé sur elle, une de ces courtes crispations intérieures qu'elle avait si souvent, dans sa vie passée, éprouvée vis-à-vis de sa mère. Tout ce que, dans d'autres circonstances, elle aurait pu sentir et dire, assaillit un moment son cœur d'enfant révolté. Mais cette sensation passa vite, si vite que son visage blanc n'en trahit pas même le passage. Elle garda son impassibilité d'expression. Elle dit enfin, de son ton naturel, toujours froid, « Nous avons vu beaucoup de choses en voyage. » Et elle énuméra Marseille, Cannes, Gênes, avec quelques mots de rapide description qui ne trahissaient rien de ses impressions personnelles. Une simple revue de choses extérieures débitées hâtivement au gré de ses souvenirs. De temps en temps, comme par hasard, elle signalait quelques-unes des extravagances faites par André pour lui plaire. « Pourvu que tu sois heureuse, » disait la mère avec un sourire tendu, « c'est tout ce que je demande. » Mais lorsque sa fille eut fini sa nomenclature de lieux et de dates, et qu'elle s'arrêta enfin au bout de son écheveau, la mère céda à l'irrésistible tentation de heurter encore une fois de front la barrière de glace qui la séparait d'Élisabeth. « Cela au moins, » supplia-t-elle, anxieuse. « Tu pourrais me le dire. Oui, tu pourrais me dire si tu es plus heureuse à présent qu'autrefois, si j'ai réussi. »«
Réussi ?»
s'écria Élisabeth, amère.
« Mais c'est toi qui ne voulais pas.
Non, absolument, tu ne voulais pas.
Pour nous séparer, tu as inventé des choses.
Oh, cela !»«
J'ai inventé des choses ?»
Et la mère joignit ses mains sur ses genoux, tandis que de son cœur torturé, un désir impétueux de franchise, un élan presque impossible à réprimer, montait à ses lèvres. Elle dit enfin avec effort,
« Ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour pour toi. Si je me suis trompée... »
Élisabeth l'interrompit vivement.
« J'ai pris par mégarde le chemin d'autrefois, tout à l'heure. J'ai été jusqu'au seringas. Il était en fleurs. Il sentait très fort. »
« Ici, » dit Madame Georges, pensive, « je ne vois plus de fleurs. » Mais voyant Élisabeth jeter autour d'elle un regard circulaire, investigateur, un peu surpris, elle ajouta vivement.
« Tu vois, j'ai vendu quelques meubles. Ils m'encombraient. Maintenant que je suis seule, je n'ai plus besoin de tant de choses. Mais j'ai fait recouvrir les fauteuils. Ils sont pour toi. »
« Oh !» dit Élisabeth, contrainte.
« Merci. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Avant notre départ, André a eu soin de tout arranger.
Nous n'avons place pour rien de plus. Il m'a gâtée. Beaucoup trop, j'en suis confuse. » Et elle regarda sa mère en face, comme pour la faire souvenir des fausses accusations portées jadis contre André. Madame Georges se tut. Elle croyait avoir tout prévu, mais elle n'avait pas un moment envisagé comme possible une dilapidation extravagante qui mangerait son bien à grande bouchée stupide. Elle avait cru le bien-être d'Élisabeth assuré pour la vie. Elle considéra un moment, sans parler, la pâle figure obstinée que n'éclairait jamais pour elle aucune lueur de confiance, d'abandon, ni même de simple compréhension, et une inquiétude d'un genre nouveau l'envahit. À tout prix, il fallait empêcher quelque nouvelle et obscure catastrophe d'atteindre Élisabeth. Mais par quel moyen? Cédant à l'impulsion du moment, elle demanda. « Est-ce que ton mari a repris ses occupations ?» Mais à peine l'eut-elle formulée qu'elle regretta sa question. Élisabeth, comme touchée par un ressort, se trouva debout devant elle, prête à partir. Madame Georges la saisit par les bras, essayant de la faire rasseoir. « Oh non, ne t'en va pas encore !» Et elle vit de nouveau s'ouvrir devant elle la tristesse monotone des heures, le vide du gouffre béant et noir. Sa pauvre figure se sillonna de plissures anxieuses. Elle ajouta, « Tu ne fais que d'arriver. Pourquoi veux-tu déjà t'en aller ?» Mais Élisabeth restait debout, décidée. La question de sa mère contenait un blâme latent, dont elle retrouvait, dans sa propre pensée, un écho affaibli. Ce reproche, transparent dans la bouche d'une autre, dans celle de sa mère surtout, lui était insupportable. C'était un rappel trop direct des calomnieuses imputations du passé. Toute sa rancœur, restée intacte, bouillonnait sourdement. Madame Georges reprit. « Je t'en prie, Élisabeth, ne t'en va pas encore. Je t'ai à peine vue. Parle-moi de ce qui t'intéresse. Dis-moi ce que tu as vu, ce que tu fais. J'ai si besoin de te voir et de t'entendre. Oh, si tu comprenais la joie que j'ai de t'avoir là tout près de moi !» Voyant Élisabeth garder son air froid et inflexible, elle ajouta, la voix brisée, suppliante, « Reste encore un peu. Oh, je t'en prie, encore un peu. Pas longtemps, encore un peu. » « Pas aujourd'hui, » balbutia enfin Élisabeth. « Je ne puis pas m'attarder davantage aujourd'hui. Je reviendrai, une autre fois, plus tard, quand nous serons installés. Aujourd'hui, André s'étonnerait de mon absence. Il m'attendrait. Je reviendrai une autre fois, plus tard. » Et retraversant le couloir obscur où sa robe claire passait comme un rayon très lumineux, poussée par la hâte fébrile de fuir le pénible entretien, elle se sauva. D'un pas de plus en plus rapide, avec un frou-frou d'étoffe neuve et légère, elle marchait le long des rues sans rien voir autour d'elle. Très vite, elle franchit la courte distance qui séparait les deux demeures, si vite que les joues délicates se couvraient peu à peu d'une passagère teinte rosée. Un âpre désir de certitude lui donnait des ailes. Jamais elle n'avait éprouvé ce besoin pressant d'identifier la réalité de sa vie avec le rêve de son esprit. Elle avait une envie violente de revoir André, de descendre avec lui jusqu'aux assises de leur bonheur, d'en faire le tour ensemble et de se convaincre de sa solidité. Elle monta en courant le large escalier clair, et dès qu'elle eut franchi le seuil de l'appartement coquet qu'André avait garni pour elle, elle l'appela. « André !» La petite bonne, à la mine éveillée et mutine, qu'André avait engagée avant leur mariage et qu'elle avait trouvée installée avant elle sous son toit, accourut. Gracieuse, souriante, l'air joyeux, elle dit « Presque tout de suite après madame, monsieur est sorti !» D'un ton qu'elle s'efforçait de rendre indifférent, Élisabeth demanda « Et il n'a pas laissé de message pour moi ? « Non, madame, aucun. »
Élisabeth ne répondit pas. Elle entra chez elle, et apercevant dans la glace son image redevenue très pâle, que sa toilette claire semblait jaunir et privée de son éclat particulier, un peu maladif, elle se hâta de quitter ce costume voyant et d'en revêtir une autre d'étoffe sombre. La phrase d'André « À la bonne heure, plus de noir !» cessa enfin de la hanter, et elle se mit à attendre le retour de son mari avec une impatience fiévreuse. Que pouvait-il faire dehors si longtemps sans elle? Et comment avait-il négligé de laisser un mot qui l'instruisit de ses intentions? Elle se promit de ne plus jamais le laisser échapper sans mieux s'informer de ses projets. Et tout en conjecturant ce qu'il pouvait être, elle se mit à aller et venir sans but dans la chambre, avec ce machinal besoin de mouvement qui naît d'une angoisse morale inavouée, sourde et déjà rongeante. Toute une heure passa lentement. Puis la petite bonne proprette, toujours alerte et pimpante, reparut. Le corsage orné d'une fleur de seringa, elle vint mettre le couvert. Par la porte restée entr'ouverte, Élisabeth la voyait aller et venir, sautillée par la chambre avec l'allure courte et gracieuse d'une fauvette, et elle éprouvait une irritation inexplicable à sentir, à côté d'elle, cette exubérance de jeunesse, cette gaieté insouciante, sans cause appréciable. Elle suivait avec attention les mouvements vifs et légers, attendant avec impatience que Mariette, ses préparatifs terminés, la débarrassât de sa présence. Dès qu'elle eut achevé ses apprêts, la petite bonne disparut, en effet. Mais au bout d'une demi-heure, elle revint, curieuse, entr'ouvrir la porte. « Est-ce que madame ne veut pas dîner? Il est 7h30. » Et dans la voix fraîche, cristalline, Élisabeth saisit une note moqueuse. Elle crut aussi apercevoir un sourire. Elle domina aussitôt l'angoisse qui l'étouffait et répondit sèchement « Sans doute, j'ai oublié de vous prévenir. Monsieur ne revient pas pour le moment. Il rentrera tard ce soir. » Elle alla s'asseoir à sa place et elle mangea du bout des dents tout ce que Mariette lui présenta. Très accorte, la petite bonne, démangée du désir de parler, s'empressait autour d'elle. Elle allait, venait, multipliait les détails du service, les entremêlait de mille attentions inusitées, qui avaient l'air de solliciter un mot de bienveillance. Mais Élisabeth ne semblait s'apercevoir de rien. Elle mangeait, distraite, sans souffler mot. À la fin, pourtant, la présence encombrante de Mariette lui devint insupportable. Elle la congédia. « Je n'ai plus besoin de rien pour le moment. Merci. » « Je vous rappellerai. » Dès qu'elle fut seule, elle repoussa son assiette et s'accouda, le menton dans la main. Il faisait encore jour. Elle voyait, par la fenêtre, le bleu pâlissant du ciel. C'était la fin d'une belle journée d'été, et des bouffées d'air tiède venaient jusqu'à elle. Mais l'odeur du seringa la poursuivait toujours. Elle croyait sentir tout près d'elle l'émanation violente de cette fleur qu'elle détestait. Pour la fuir, elle se leva et marcha dans la chambre. Un désordre d'idées inachevées tourbillonnait dans sa tête, et par moments, au milieu d'un chaos de suppositions informes, invraisemblables, elle voyait très loin, dans une brusque échappée de lumière, très loin comme un tableau perdu au fond d'immenses distances, l'image amoindrie et flétrie de sa mère. Elle la voyait debout dans sa robe noire, disant d'un air effrayé « Reste encore un peu !» 9 heures avaient sonné depuis longtemps, lorsque la petite bonne vint voir s'il fallait desservir. Élisabeth l'envoya se coucher et garda la table dressée. Ce couvert mis attendait avec elle. Il conservait à son impatience une apparence de fin prochaine. Cela la rassurait de voir la place d'André prête à le recevoir d'une minute à l'autre. Elle s'assit et se força à l'immobilité, essayant de sonder assez calmement ses inquiétudes pour en découvrir les causes complexes, les détruire toutes, une à une, et se moquer d'elle-même. Mais à côté de ce travail de son esprit, son âme restait torturée de doutes. Elle se dit « J'attendrai jusqu'à 11 heures ». Il était passé minuit quand elle entendit enfin une clé tourner dans la serrure. Pour traverser le couloir, André gratta une allumette sur le mur. Élisabeth aussi fit de la lumière. Elle tremblait d'un frisson de fièvre, elle tremblait de tous ses membres raidis d'attente. Et lorsque le jeune homme la prit dans ses bras, elle ne parvint pas à articuler un mot. Sa longue angoisse lui serrait encore trop violemment la gorge. « Que je suis content que tu m'aies attendu, » dit-il. « J'apporte de grandes nouvelles. Michael, tu sais, Michael. » Et il raconta sa journée. Michael, son ancien camarade, un homme de tête qui n'avait pas, comme l'oncle Musso, du plomb aux pieds, venait enfin, à force d'avoir l'œil au guet, de découvrir ce qu'il leur fallait, quelque chose de superbe, point de risque et beaucoup d'espérance. Il lâcherait ce stupide bureau, cette vie de fossile qui n'était pas faite pour lui, qui le dégoûtait du travail. Le silence obstiné d'Élisabeth finit par le frapper. Dès qu'il se trouvait seul avec sa femme, il percevait cette même note sourde de souffrance personnelle, cette continuelle attente de choses qu'il ne pouvait pas lui donner. « Pourquoi ne dis-tu rien ?» Elle balbutia la voix étranglée d'émotion. « J'ai peur que tu ne m'aimes plus comme autrefois. » Il se récria, surpris. « Mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu as ?» En même temps, sentant quelque chose glisser sous son pied, il se baissa et ramassa l'objet. C'était une branche de seringa à moitié flétrie. Il introduisit la tige dans sa boutonnière, puis il revint à Élisabeth. « Est-ce parce que je t'ai fait attendre ?» dit. « Voyons, qu'est-ce que tu as ?»« Jette cette fleur !» murmura la jeune femme sourdement. « Jette-la vite !» Il arracha de sa boutonnière la branche de seringa et la jeta loin de lui par-dessus son épaule. L'émotion contenue d'Élisabeth le gagnait malgré lui, l'impressionnait. Un éclat fiévreux remplaçait la pâleur ordinaire de la jeune femme, et dans ce visage surexcité et maladif, les yeux noirs brillaient comme des étoiles. Quelque chose de la griserie qu'un moment il avait ressentie auprès d'elle, là-bas, en face des cerisiers, dans l'enivrante éclosion du printemps, lui fouetta tout à coup le sang. Il l'attira à lui tendrement. « Élisabeth !» Il y avait dans l'intonation basse et contenue un accent de vérité inusité. La résistance de la jeune femme fléchit aussitôt. La sincérité du ton la touchait en plein cœur. Elle n'avait pas trouvé d'autre filtre pour guérir la plaie de sa jeunesse, l'âpre déception due à sa mère, que l'amour de cet homme. Elle n'avait pas d'autre refuge pour échapper à ses réminiscences, à l'obsession du passé, que la foi absolue en l'homme qu'elle avait choisi. Elle s'appuya sur la poitrine d'André et balbutia « Si tu ne m'aimais plus comme autrefois, vois-tu, je ne sais pas ce que je... » Il lui ferma la bouche d'un baiser brusque et l'enveloppa plus étroitement. Toutes les associations d'idées qui, pendant cette interminable soirée d'attente, avaient torturé l'esprit soupçonneux d'Élisabeth, se dissipèrent. Elles s'envolèrent comme d'insignifiantes vapeurs dans la belle nuit d'été brillante et sereine. L'éternel mensonge de l'amour les emporta sur ses ailes diaphanes et les éparpilla çà et là au gré de la brise nocturne. Chapitre 3. Accoudé sur la table, le menton dans la main, avec un pli d'attention rapprochant la ligne mince des sourcils, dessinée d'un trait de plume droit et net, tout près de l'œil, Madame Musso écoutait depuis une demi-heure discourir son neveu sans l'interrompre. En face d'elle, devant la fenêtre, les deux géraniums dressaient leur tête écarlate, et leur senteur violente pénétrait l'air d'émanations un peu âcres. Elle croyait voir distinctement rôder autour des deux arbustes l'asthmatique, soufflant son haleine courte et grasse. Elle le voyait travaillant la terre avec une bûchette taillée pour cet usage, émondant les branches gourmandes ou enlevant çà et là les fleurs fanées des grosses touffes rouges. Et plus elle y pensait, plus l'idée de demander un service quelconque à son mari pour complaire aux pressantes sollicitations d'André lui semblait impraticable. Non, ce n'était pas possible. Elle s'informa enfin. « Et la dot d'Élisabeth ? N'as-tu pas la dot d'Élisabeth ?» André s'expliqua plus clairement. Il s'agissait du rachat d'une tannerie, en déroute depuis quelque temps, faute d'une direction solide. Il y avait là quelque chose de superbe à tenter, une de ces entreprises qui enrichissent un homme avant qu'il ait le temps de se reconnaître. En un mot, une de ces aubaines qu'il faudrait être fou pour laisser passer à sa portée sans mettre la main dessus. L'acte de vente était en règle, signé et paraffé. Depuis un mois, Miguel et lui étaient les légitimes propriétaires de l'immeuble. C'était un grand pas de fait vers une indépendance honorable, mais toute la dot d'Élisabeth y avait passé. Il s'agissait maintenant de remettre l'affaire à flot. Le matériel de la fabrique était en très mauvais état. Miguel, qui prétendait s'y connaître, s'était laissé tromper sur la valeur des machines. Tout cela était caduque, usé, tombé en poussière. Il fallait donc, pour pouvoir commencer le travail, une mise de fonds supplémentaire, une dizaine de mille francs tout au plus, destinés à parer aux plus pressantes nécessités. Une vraie bagatelle, et le succès était certain. Les chiffres étaient là. On ne discute pas avec des chiffres. « À la façon dont vous vivez, tante Agathe, conclut-il, il est impossible que vous n'ayez pas fait des économies. Vous avez certainement des fonds quelque part. » « Et si j'avais eu les mains pleines d'argent, dit-elle, froissée par son manque de mémoire, tu n'aurais jamais rencontré Élisabeth. » « C'est justement à cause de tout ce que je vous dois, reprit-il après un silence, que j'ai premièrement pensé à vous. » Elle sourit évasivement. La certitude que son mari repousserait sèchement toute association avec André la mettait mal à l'aise, car elle devinait très bien, sous l'apparente sécurité de son neveu, un commencement d'angoisse. Elle le connaissait trop bien pour s'y tromper. Si elle eût été libre de ses mouvements, cependant, elle aurait tout risqué courageusement pour aider André à mener à bien son hardi dessein. Elle avait toujours eu foi au génie de ce garçon, elle, et cette bravoure à se lancer de l'avant lui plaisait. Cela valait mieux que de rester éternellement attaché à la même chaîne, en tournant en rond autour d'un piquet. « Je parlerai à ton oncle, » dit-elle enfin. « Mais tu le connais, il a ses idées à lui. Il mourra sans échanger une lettre. C'est inutile de vouloir le faire aller là où son envie ne le mène pas. » Cependant, je lui parlerai, mais je ne te promets rien. » Midi sonnait, André se leva. Il n'avait que le temps de se sauver s'il ne voulait pas rencontrer son oncle dans l'escalier. Quelques minutes plus tard, en effet, Monsieur Musso rentrait. L'air soucieux, il alla s'asseoir à sa place, et apercevant la feuille apportée par André, qui était posée en évidence à côté de son couvert, il la prit, et dit froidement « J'ai aperçu votre neveu au tournant de la rue. C'est lui qui a apporté ça ?» Et tapotant sur la table ses petits coups inquiets, il parcourut du haut en bas un alignement serré de chiffres où il ne voyait rien de clair qu'une demande pressante de fonds. Quand il se fut suffisamment renseigné, il demanda « Qu'a-t-il donc fait de la dot d'Élisabeth ? Est-il possible que tout cet argent soit déjà dévoré ?
En même temps, son cœur se serra, tandis qu'il revoyait brusquement le coin de campagne ensoleillé, où, dans un inoubliable regard d'angoisse, de désespérance, de supplication, le secret de Madame Georges lui était apparu, lui avait livré le mot explicatif d'une sombre destinée de femme. Il sentit de nouveau autour de lui la caresse du printemps, ce jour-là, les émanations saines des champs, la joie de vivre, qui, à l'appel de la nature, avait fait battre même son cœur de malade sans espoir de guérison. Et puis, au milieu de la communicative ivresse des choses, ce coup de massue qui s'était abattu sur sa tête. Toute la ténébreuse aventure qui avait abouti au mariage d'André lui causait des spasmes de dégoût. Et pourtant, malgré sa pitié profonde, l'idée de tendre la main à Madame Georges comme autrefois, en oubliant sa déchéance, lui était restée inacceptable. La question de savoir à quel point sa conscience rigoriste était dans son droit en condamnant ainsi sans appel une malheureuse vouée par la faute de sa jeunesse à un martyr d'expiation sans issue, cette question délicate d'équité morale, demeurée sans solution dans sa pensée, le harcelait très souvent de sa troublante incertitude. Au prix de beaucoup d'efforts, il parvenait, jusqu'à un certain point, à dégager son jugement étroit des idées courantes, mais il ne réussissait pas à vaincre sa répulsion intérieure. Quelque circonstance explicative qu'elle y pût invoquer pour sa réhabilitation, Madame Georges, en désertant le chemin de l'honneur, avait effacé de sa propre main son nom de la liste des honnêtes femmes. Il n'y avait pas moyen de retourner en arrière. Aucune expiation, si courageuse qu'elle pût être, ne lui rendrait le droit au respect. Non. Elle demeurerait jusqu'à la fin de sa morne destinée, perdue dans une foule obscure. Elle errerait à l'aventure, sans phare ni boussole, ballottée par des tempêtes, sans trouver nulle part un port sûr où s'abriter des éléments du dehors. Elle resterait, quoi qu'elle fît pour sortir de cet esclavage, solidaire du mal, sous une de ses formes spéciales ayant un nom et une place dans la société. L'assujettir ainsi à une loi générale de justice sommaire était une iniquité. Mais une iniquité si compliquée de principes vrais et forts qu'elle restait pour lui irréductible. Il ne parvenait pas à se débarrasser de sa tyrannie. Il avala son repas en silence, tourmenté de regrets très vifs, mais insuffisants à vaincre ses répugnances. Puis il se leva, posa le doigt sur la feuille criblée de chiffres, d'additions, de multiplications qui miroitaient sur le papier, sans conclusion précise, et il articula nettement « Dites à votre neveu que je n'ai pas 10 000 francs à jeter au vent. » Le long de l'escalier, jusque tout en bas, un mot le suivit, mêlé à beaucoup d'autres, mais il ne saisissait distinctement que celui-là. « De l'injustice ! De l'injustice !» Tout en glissant le long des trottoirs de son pas de malade un peu traînant, il se le répétait tout bas en cadence. De l'injustice, de l'injustice. Mais ce n'était plus aux reproches de sa femme qu'il pensait, ni aux fantaisies chiffrées de son neveu. Il pensait à l'appel muet d'une malheureuse, appel de naufragé dont l'eau remplit la barque et qui tend en vain vers le secours une main désespérée. Et il s'en allait le long des rues, songeur, la tête basse.